Bonjour et bienvenue à votre émission Au rythme de l'Église. Je m'appelle Mario Ringuette et je serai l'animateur ce matin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monseigneur Claude Champagne, notre évêque du diocèse d'Edmundston, qui viendra nous parler de la Journée nationale de vérité et réconciliation avec les peuples de la Première Nation.
Les Premières Nations, oui.
Bonjour, Monseigneur.
Bonjour, Mario.
Merci de vous êtes plié à notre invitation. Donc, Monseigneur, cette année, on est à la 5e édition, je crois, pour cette fête de la réconciliation et de la vérité avec les peuples.
Possiblement, à la suite de la commission d'enquête sur les écoles résidentielles, on a jugé bon d'avoir une journée annuelle. C'est pas une journée de célébration, mais c'est une journée où on réfléchit sur l'impact qu'a eu la colonisation sur les peuples qui vivaient ici avant notre arrivée. Et alors, c'est ça, il y a eu, à un moment donné, on a parlé d'éducation, mais dans des écoles résidentielles, en tout cas, il semble qu'il y avait un désir pour le gouvernement de faire disparaître les Autochtones, d'en faire des gens comme nous et de les intégrer à la grande société qui était la nôtre, industrialisée. Alors, ce qui fait que on reconnaissait pas les grandes valeurs qu'avaient ces gens-là au niveau culturel, au niveau spirituel. Alors, c'était une autre façon de voir les choses. Et donc, il y a eu, malheureusement, beaucoup de blessures à la suite de ça. Et donc, on est comme devenu plus conscient de la souffrance infligée. Et c'est pour ça que le pape François est venu faire un pèlerinage pénitentiel il y a quelques années pour dans le fond, demander pardon et se dire, bien, on veut favoriser une guérison puis éventuellement une réconciliation, mais conscient que ça va se faire dans le temps. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Mais on est plus éveillé. Je vois, je participe à des rencontres où une des premières choses qu'on fait au début de la rencontre, c'est reconnaître que on est sur le territoire d'une nation autochtone et ça nous fait réfléchir. On réfère à ce que la colonisation a pu causer de méfaits chez nos frères et sœurs autochtones.
Vous parliez tout à l'heure que le pape François était venu ici au Canada pour demander pardon, mais le gouvernement canadien aussi, de sa part, avait fait...
Oui, le gouvernement canadien l'avait fait. Moi, je suis un oblat de Marie-Immaculée et je peux te dire que en 1990, déjà, on reconnaissait l'aspect négatif de la façon de faire à cette époque-là.
Parce que si on se rappelle, c'est le gouvernement canadien avait demandé aux communautés religieuses d'un peu faire l'instruction de ces jeunes-là.
Bien, c'est-à-dire que ça arrangeait le gouvernement que des églises prennent charge de ces écoles. Je ne sais pas si toutes les écoles étaient confiées à des églises. L'Église catholique avait plus de la moitié des écoles. Ouais. L'Église anglicane, l'Église méthodiste, l'Église presbytérienne avait aussi un certain nombre d'écoles.
Et puis, si on parle de réconciliation, on ne parle pas seulement des abus physiques qu'il y a pu y avoir. C'est pour
abus psychologiques, oui. Sexuels, culturels, spirituels. C'est-à-dire qu'on n'était peut-être pas tellement outillés pour reconnaître les grandes valeurs qui marquaient ces communautés et leur culture. C'est venu par après qu'on l'a mieux compris. À cette époque-là, les Européens pensent qu'ils sont, mon Dieu, ils sont le sommet de l'humanité par leur culture, leur technologie, leur religion. Alors, d'avoir à prendre conscience de la valeur des gens qui vivent très différemment de nous. Il faut penser que plusieurs des communautés sont encore nomades. Quelques-unes sont sédentaires et font la culture. Bon. Alors, il y a vraiment un contraste entre les deux groupes. Évidemment, les Européens qui ont traversé l'Atlantique étaient plus puissants. On fait des alliances avec les premiers, contre ceux qui étaient les ennemis des premiers. Bon. Alors, il y a eu un peu tout ça là, qui a joué.
Et puis, si on remonte dans l'histoire, ce n'était pas nécessairement dans notre région ici que tout ça s'est passé, mais c'est à la grandeur du Canada, dans l'Ouest canadien, dans le Grand Nord aussi.
Oui, évidemment. On est arrivé ici il y a 400 ans. Mm-hmm. Vous êtes conscient que dans les premières années, le grand chef Mbembertou des Mi'kmaq accepte la foi catholique en 1610. On a donc souligné, et de fait, plusieurs Autochtones dans l'est du pays sont devenus chrétiens. On n'était peut-être pas tellement bien équipés pour comprendre que ces gens-là avaient déjà une spiritualité. Donc, il y avait déjà des valeurs, mais on n'était pas équipés pour le reconnaître tellement. Okay. Alors, dans l'Ouest, l'Évangile est arrivé à la fin du 19e siècle. Donc, le contexte est assez différent. Et c'était quand même... Bon, il y a eu dans l'Est, je sais qu'il y avait une école résidentielle à Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Et les jeunes catholiques qui ont dû aller à l'école résidentielle dans nos régions, c'était l'endroit à des centaines de kilomètres de leur foyer, bien sûr.
OK. Et puis, là, on parle de réconciliation. J'imagine que... il y a eu des compensations monétaires, j'imagine, pour aider pour les choses psychologiques, ces choses-là.
Actuellement, l'Église catholique s'est engagée à verser 30 millions qui sont recueillis progressivement sur 5 ans et déjà des projets pour favoriser la guérison, favoriser la promotion de la langue, de la culture, sont déjà mis en place. Un groupe d'Autochtones sont chargés de choisir les projets qui leur sont soumis des différentes communautés autochtones à travers le pays. Alors, ça veut dire que même chez nous, c'est possible. Il s'agit de voir jusqu'à quel point des gens de l'Atlantique ont déjà présenté des projets. Je sais qu'au centre du pays et dans l'Ouest, il y a déjà des choses sur pied. Mm-hmm.
Et puis, vous parlez tout à l'heure que le premier Amérindien est devenu catholique. Ces personnes-là ont une grande ferveur.
Maintenant, à cette époque-là, tu peux imaginer qu'aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs qui sont catholiques de naissance, avec ce qui a été appris au niveau des écoles, du traitement, il y a des gens qui ont pris distance, qui sont blessés. D'autres demeurent des gens convaincus de leur foi, ils cherchent à en vivre, mais d'une manière autochtone de vivre la foi chrétienne.
Exactement.
Je pense à des groupes en Ontario où des rituels autochtones ont été intégrés à la liturgie catholique. Alors, ils célèbrent le Seigneur, mais ils le font comme autochtones avec les langages et les gestes
qui leur sont propres.
C'est ça.
Parce qu'on pense aussi au grand rassemblement pendant la neuvaine de Saint-Anne. Juste l'exemple à Saint-Anne-de-Beaupré, pendant toute la neuvaine, il y a un campement qui est là pour
effectivement,
les
beaucoup d'Autochtones, dans leur culture, la grand-maman joue un rôle central. Donc, pas surprenant que la grand-maman de Jésus, dans ceux qui vivent la foi catholique, exerce un rôle important. Et effectivement, on dit qu'il y a une journée même autochtone de pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, il y a une richesse pour ceux qui arrivent à intégrer tout leur background autochtone.
Donc, Monseigneur, c'est presque déjà terminé.
Alors, on prie avec eux, puis on essaie de devenir plus conscient, et on espère que ça a un impact sur notre comportement, notre attitude dans nos relations avec nos frères et sœurs autochtones.
Exactement. Donc, on rappelle que le 30 septembre est la journée nationale pour la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, comme vous le dites, cette journée-là est consacrée pour...
C'est l'occasion de faire mémoire, de réaliser et de se convertir nous-mêmes.
Exactement. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, de cet éclairage.
Merci, Mario.
Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.